Bonjour, bienvenue dans la danse des mots, dans la danse du mercredi. Et vous le savez, le mercredi, c'est le jour de la puce à l'oreille. Et tout à l'heure, nous retrouverons Lucie Bouteloup. Mais avant qu'elle ne nous coupe le sifflet, pourquoi couper le sifflet? Bah, soyez patient, vous le comprendrez tout à l'heure. Avant de se faire couper le sifflet par Lucie, j'aimerais bien qu'on parle de Comme un cri. Comme un cri, c'est le nom d'un spectacle qui se donne à partir de ce soir à Paris au Théâtre des Déchargeurs. C'est juste à côté du Châtelet, au cœur de Paris, jusqu'au 21 mars. Un spectacle dramatique, je n'ose dire un drame parce que c'est pas exactement un drame, mais c'est le souvenir d'une tragédie qui s'est produite il y a un petit peu plus de 10 ans. Un naufrage terrible dont voici quelques échos.
Ce n'est pas moi! Je n'ai plus regardé le rideau, le bateau n'a pas cessé de tourner. Ce n'est donc pas moi. Mais si c'est pas moi, c'est foutu. Et si c'est pas moi, c'est foutu.
Jean-Christian Leroy, bonjour, c'est votre voix qu'on vient d'entendre, puisque vous êtes l'unique comédien qu'on voit et entend sur scène. Je ne sais pas si vraiment c'est un spectacle à un seul personnage, c'est pas exactement un one-man show, c'est un spectacle dans lequel on entend des voix multiples, mais seule la vôtre est en direct. Alors, expliquez-nous un tout petit peu quel est votre rôle dans cette pièce Comme un cri.
Oui, bonjour. C'est le récit. C'est le témoignage de cet homme qui a survécu au naufrage du Djolad, ce ferry qui faisait la Casamance-Dakar, et qui veut ne pas oublier, qui veut se souvenir de ces événements. Et donc il décrit par le détail tout ce qui lui est arrivé depuis l'instant où il est arrivé sur le port, jusqu'à son sauvetage, jusqu'à son retour en France. Donc c'est cette parole que je livre,
que vous portez, oui,
que je porte sur scène.
Alors Amélie Armao, vous avez adapté un texte, vous l'avez mis en scène donc au Théâtre des Déchargeurs. Ce texte qui rend compte d'un fait divers tragique qui s'est passé il y a une quinzaine d'années, c'était quoi,
2002,
en 2002, donc
ça fait
13 ans maintenant. Racontez-nous un tout petit peu, même si on vient d'en avoir très vaguement une idée, que s'est-il passé donc en septembre 2002 entre la Casamance et Dakar?
Bah, ce bateau, le Djola, faisait donc la liaison et s'est renversé avec plus de 2000 passagers, alors qu'il avait une capacité de 550 personnes. Donc c'est vraiment un drame, et aujourd'hui c'est doublement un drame parce que les coupables ne sont toujours pas inquiétés. Il y a pas le dernier procès qu'il y a eu là en France cet automne a conclu sur un non-lieu. Donc c'est vraiment un double drame. Et donc l'histoire de ce bateau, c'est aussi l'histoire de cet homme qui essaye de reconstruire sa vie après un naufrage dont personne n'entend parler.
Voilà. Donc c'était un passager du bateau, un rescapé.
Voilà, c'est ça. Patrice Auvray, c'est le seul rescapé blanc. Il y a eu 64 rescapés et il a voulu absolument...
Il y a eu 64 rescapés sur 2000.
Ça fait 3% des passagers, ouais. Ce qui est vraiment rien du tout. Et il a voulu donc raconter cette histoire-là pour en mémoire de ceux qui sont partis.
Et est-ce qu'il l'a raconté, est-ce qu'il l'a écrite cette histoire longtemps après que les faits s'étaient déroulés?
Il a mis 10 ans à écrire le livre, parce qu'il voulait être très précis, très concret, et surtout pas raconter n'importe quoi. Donc il a fait un gros travail de mémoire, de souvenir, parce qu'il y a des choses qu'il occultait, j'imagine, quand on a vécu un drame comme ça. Et donc il a mis 10 ans à écrire un livre qui s'appelle « Souviens-toi du Djola », qui est publié aux éditions Globophile.
Donc c'est un livre qu'on peut lire, mais on peut aussi écouter l'adaptation que vous en avez faite.
Voilà, donc l'éditeur, Laurent Lecrest, il m'a aidé à faire cette adaptation. Et ensuite, avec Jean-Christian, en lecture et puis en travail de plateau, on a vraiment finalisé l'écriture de l'adaptation.
Alors, Amélie Armao, en quoi ça consiste justement d'adapter un texte comme ça, d'en faire un texte pour l'oralité et pour le théâtre?
Alors, ce qu'on voulait surtout pas, c'était refigurer sur scène le naufrage, le retournement du bateau, etc. On voulait vraiment travailler comme un conteur, comme un récitant qui
va... C'est-à-dire que sur scène, on a du souvenir et pas de l'action, disons.
Voilà, c'est ça. On a du souvenir et c'est beaucoup plus fort, je trouve, parce que les gens qui entendent peuvent s'identifier et imaginer eux-mêmes ce qui est dit. Ça, voilà. Donc, je trouve que c'est encore beaucoup plus fort que de représenter... un bateau, un plancher penché, enfin j'en sais rien.
Alors bien entendu, quand on adapte un texte, il y a un travail de coupe, on peut pas tout mettre sur scène, mais il y a aussi un travail de réécriture, j'imagine. Il y a des choses qui sont écrites pour être publiées, pour être lues, pour pour être lu silencieusement ou même à mi-voix, et des choses qui se prêtent à l'oralisation, à, au fait d'être dit. Quel a été votre travail par rapport à ça?
C'est un travail de rature. C'est une écriture de la rature, en fait. C'est un petit peu ça. Et puis de remontage. Le début du spectacle, c'est le texte de la fin du livre, par exemple.
Il y a un bouleversement de perspective. Vous avez pris la fin pour la mettre au début.
Voilà, pour introduire. Parce qu'il raconte aussi... En plus, pourquoi c'est difficile de raconter et pourquoi c'est important.
Et c'est là-dessus que vous avez commencé,
voilà,
vous,
oui,
alors
voilà.
Que lui, il finissait là-dessus.
Voilà. Et puis après, c'est aussi un travail d'ellipse, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, parce qu'on va aller les voir ou simplement les imaginer quand on est spectateur. Donc il y a des choses qu'on a aussi enlevées pour laisser la place au spectateur de se faire son histoire aussi.
Le texte est écrit à la première personne, il y a un
oui.
je.
Oui.
Et
oui.
Donc c'est quelque chose là que vous avez gardé, j'imagine.
Oui, 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 oui. On n'a pas réécrit. C'est vraiment une écriture de la rature. Je n'ai pas rajouté de mots à
vous
ce
vous voulez dire que tout le travail que vous avez fait, c'est uniquement un travail de coupe, de découpage,
voilà.
De montage d'une certaine façon. Mmh. Vous enlevez telle phrase, dans telle phrase, vous gardez le début, vous la raccordez à telle autre phrase, etc. Mais vous n'avez pas changé un mot?
Je n'ai pas changé un mot. Parce que Patrice a une écriture en plus, alors qu'il n'est pas écrivain au départ, mais il a une écriture tellement limpide, claire, et des fois des tournures de phrases qui sont poétiques, vraiment, qu'il n'y avait pas besoin de réécrire.
Il n'y avait pas besoin, mais ça ne doit pas être facile quand même.
Non, parce qu'il fallait aussi être fidèle à ce qu'il avait écrit, pas le trahir. Il y avait tellement d'éléments aussi importants dans le déroulé de l'histoire qu'il ne fallait pas enlever, parce que sinon on trahit aussi l'histoire, alors que lui, il était sur quelque chose, enfin, sur vouloir tout dire. Nous, il fallait qu'on enlève, on ne pouvait pas tout dire. Donc, ce n'était pas facile pour ça.
Et est-ce qu'il vous a aidé? Est-ce qu'il a été proche de votre travail? Puisque je sais bien sûr que lui, il est au courant de ça.
Oui,
je sais pas s'il viendra
oui.
voir la pièce, c'est pas sûr, ça doit pas être très facile.
Mais, oui, il est au Sénégal, lui.
Puis il est au Sénégal, mais enfin s'il veut venir à Paris pour la voir, il peut.
Il est invité.
Voilà, autant, j'imagine qu'il est invité.
Bien sûr.
Comment s'est passé votre travail avec lui, justement?
Alors ça a été un aller-retour permanent entre les différentes versions, entre après des lectures qu'on a faites, il était présent, il a vraiment, d'ailleurs c'est lui qui nous a suggéré ce titre comme un cri, puisqu'on voulait pas mettre le même titre, donc il a vraiment été
parce
très
que lui
très présent.
Son texte s'appelle donc Souviens-toi du Jola,
voilà.
Alors que votre pièce s'appelle Comme un cri.
Voilà.
Et comme un cri, vous l'avez trouvé, c'est l'extrait de son témoignage?
Voilà, c'est l'extrait de son témoignage et c'était très parlant pour le spectacle.
Bah, c'est plus que parlant, c'est criant, oui.
Voilà.
Et pourquoi comme un cri? Qu'est-ce qui est comme un cri? À quel endroit du texte apparaît cette formule?
Ça apparaît au moment où il raconte quand le bateau s'est retourné et qu'il a entendu tout le bateau crier et tous les passagers crier en même temps. Et il disait, c'est comme un cri dans un stade, c'est énorme. Et en même temps, ce que j'aime dans comme un cri, c'est que c'est pas un cri, c'est comme un cri. Et aujourd'hui, comment il crie son histoire et comment est-ce qu'il essaye de défendre aussi les familles des rescapés aujourd'hui? C'est un cri qu'on n'entend pas et c'est aussi pour ça que nous on veut le partager cette histoire et faire entendre ce drame, quoi. Voilà.
Alors, en effet, il y a quelque chose de très poignant dans ce cri collectif. Vous dites, c'est comme dans un stade, mais très souvent dans un stade, quand les spectateurs crient, c'est de joie, quand il y a un but. Parfois, ça peut être de désespoir, quand il y a un but contre leur équipe, c'est vrai. Mais ça évoque quelque chose d'incroyablement collectif, d'une émotion collective et de quelque chose qui est à la jointure entre l'émotion pure et le langage, d'une certaine façon.
C'est ça, et c'est spontané d'un seul coup. Et dans un stade, ça résonne ensemble, et l'émotion qu'ils ont tous vécue, j'imagine, a résonné très fort à ce moment-là, je ne sais pas.
Alors, il y a peu de rescapés de cette tragédie, mais il y en a certains. De tous ceux qui sont morts, on a pu retrouver des familles, des proches, des amis. Et dans votre spectacle, c'est aussi l'une de ses particularités, outre la voix de Jean-Christian Leroy, on entend un certain nombre de ces témoignages authentiques qui ont été captés ici et là. Il y a une musique et il y a aussi d'autres voix qui sont... les vraies voix, entre guillemets, je ne veux pas dire que la voix du comédien est une fausse voix, mais qui sont les voix authentiques de gens qui ont été les témoins ou les parents des victimes de ce drame.
Thank you. une femme qui arrive. Elle sait nager. Elle commence à pleurer. Pourquoi cette malheur-là nous arrive? Elle est enceinte de 3 mois.
Un immense cri. Tout le monde à bord crie en même temps, quoi. Ça fait comme un seul cri. C'est comme un cri dans un stade. On a l'impression que c'est le bateau qui, lui-même qui crie.
Le nombre s'accroît au niveau de la coque jusqu'à ce que nous atteignions une vingtaine de rescapés. Et là, nous sommes comme des prisonniers à l'attente de ceux qui vont nous sauver encore.
Voix, deux sénégalaises et une voix française au milieu, qui est d'ailleurs celle de Patrice Auffray, l'auteur de Ce souvenir, Souviens-toi du Djola. Alors, dites-moi, Amélie Armao, d'où viennent-ils ces témoignages?
Alors, Alain de Valpo et Jean-Philippe Navarre sont partis 10 ans après le naufrage au Sénégal pour retrouver des rescapés, des familles de victimes.
Alors, ce sont deux personnages qui sont, l'un est producteur et l'autre est réalisateur à France Culture. Donc, c'est pour ça qu'ils travaillaient et qu'ils sont allés faire ce reportage.
Voilà, pour l'émission sur les docks. Et donc, ils nous ont gracieusement offert tous les enregistrements qu'ils ont faits, aussi bien les témoignages que les ambiances, etc. Donc, ça ponctue le spectacle pour alimenter ce travail de mémoire aussi que fait Patrice.
Et eux, ils avaient fait une enquête.
Voilà. Ils ont fait un documentaire de 2 heures qui a été primé, qui est vraiment un documentaire magnifique.
Dans lequel ils ont retrouvé un certain nombre de rescapés ou de parents des victimes.
C'est ça. Donc les voix qu'on entend ne sont pas des voix de comédiens.
Oui, oui. Alors, je me tourne maintenant vers le comédien, vers vous, Jean-Christian Leroy, parce que ça doit être un petit peu particulier d'être seul en scène et de parler, entouré par des voix qui ne sont justement pas des voix de comédiens et qui ne sont pas des voix de gens qui jouent la comédie. Quand je dis joue la comédie, il y a aucune allusion comique à ça, hein. Mais ils sont pas sur les planches. Vous, oui. Est-ce que ça change votre façon de donner le texte, disons?
Oui, ça change forcément parce que je ne dois pas ça ne doit pas paraître incongru. Ma voix ne doit pas paraître venir de nulle part ou être en plus. Ça doit se compléter. Je dois être dans la continuité du témoignage et à la fois je dois continuer à raconter ce qui se passe. Donc il y a une difficulté à être en phase avec ces paroles vraies.
J'imagine qu'il y a une difficulté aussi à ne pas mimer le témoignage. Parce que vous ne témoignez pas. Vous êtes comédien, oui. Vous n'étiez pas sur le Djola, vous n'êtes pas sénégalais, et vous faites votre travail de comédien avec un texte que vous avez appris. Donc pour le dire, il faut une tonalité qui ne fasse pas semblant d'être sur le même plan que les témoins.
Alors on n'est pas du tout sur le même plan, donc la difficulté a été effectivement à trouver cette distance et à trouver le temps. Presque temps de conjugaison de ce texte pour être dans le présent mais dans le récit, dans le témoignage et pas dans l'action de ce qui se passe, être présent mais sans avoir à revivre constamment ces événements. Donc il a fallu trouver cette distance, cette distanciation dans le jeu et dans la parole émise.
Avec un rapport à l'émotion qui doit être particulier, parce que il faut pas en faire trop d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes comme un chroniqueur? Quel est votre statut? Quelle est votre position là?
Alors je suis Amélie me tient les rênes. Il a fallu que Amélie tienne les rênes pour pas qu'effectivement je tombe dans cette cette envie de vivre l'action et de l'extérioriser, de donner.
Vous voulez dire qu'il faut qu'il n'y ait pas trop d'empathie. Que vous soyez d'une certaine façon sur la réserve.
Oui, c'est vraiment de la distance, prendre de la distance et puis rester sur le temps présent du récit et ne pas avoir cette envie de vouloir absolument revivre le fait.
Oui, c'est sûr que vous ne revivez pas puisque c'est quelque chose de tout à fait différent. Est-ce que vous avez l'impression parfois que vous présentez les voix qu'on entend? Que vous leur tendez un espace pour elles?
Non, je les présente pas. Je les écoute. Elles sont vraiment là. Je suis envahi par différentes émotions quand je les entends, et je dois continuer. J'essaie de continuer dans le même dans cette émotion. Donc j'essaie de me faire porter par ces paroles.
C'est les voix qui te portent.
Oui,
je dirais comme tu dis. Je dirais que c'est les voix qui te portent et c'est les voix qui t'accompagnent pour raconter.
Et vous, comment vous avez jonglé entre ces sources sonores différentes en tant que metteur en scène, Amélie Armao?
La difficulté, c'est qu'il est tout seul, mais il n'est pas tout seul. Et c'est aussi le cas de Patrice, je pense. Il n'est pas tout seul, même s'il est tout seul.
Patrice Auvray, l'auteur du texte.
Voilà, l'auteur, oui. Parce que, donc les voix t'accompagnent, tu leur ouvres la porte, mais c'est aussi elles qui te soutiennent. Donc l'idée, c'était, elles sont dans ta mémoire, elles sont avec toi, et puis tu les...
Mmh. Avec un décor extrêmement minimal, puisqu'il y a un carré de lumière, et que l'acteur est au milieu ou au bord de ce carré de lumière, mais il n'y a rien d'autre. Pourquoi est-ce que ça figure? Alors, on pense forcément à une sorte de radeau, mais bon, ça, c'est peut-être ma subjectivité, c'est mon rêve à moi, hein. C'est comme ça que je l'ai vu.
C'est un espace, oui, carré, de 9 mètres carrés, comme une taille de cellule de prison, parce que pour moi, c'était un enfermement d'être dans un carré. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce qu'on monte dedans? Et en même temps, c'est un espace blanc et neutre qui peut ouvrir sur tout. Donc c'est ça que j'aimais bien dans ce carré, duquel il peut tomber. On a l'impression qu'il va tomber. Et puis non.
Carré à partir duquel il donne tout le pathétique de ce qui s'est passé, parce qu'on l'a à peine dit, mais ce qui a été terrible dans ce naufrage, c'est que les secours ne sont pas venus, ou en tout cas qu'ils sont venus extrêmement tardivement, alors que visiblement, beaucoup de gens s'étaient aperçus qu'il y avait un navire en perdition et qu'on l'a laissé se perdre.
Et à quelques kilomètres des côtes, en plus. Donc c'est vraiment un drame, je pense, pour l'humanité, cette histoire-là. Des choses qui ne sont pas résolues encore aujourd'hui.
Parce que c'est le drame, non pas de ceux qui vont périr et qui ne voient pas arriver les secours, mais c'est plutôt le drame de ceux qui voient tous ceux qui pourraient leur porter secours
et qui
ne viennent pas. Parce que on entend ça dans le texte, le fait qu'il y a des bateaux de pêche qui passent à proximité et qui peuvent pas ne pas voir le bateau qui coule.
Voilà, ils n'avaient pas l'autorisation de secourir les personnes. Alors, ils avaient aussi peut-être peur que leur bateau se retourne, parce qu'il y avait aussi beaucoup de pirogues, donc ils n'ont pas eu l'autorisation. Ça, c'est assez terrible. Et puis, les corps qui ont été retrouvés sont enterrés sous de simples numéros. Il n'y a pas eu d'identification, il n'y a pas eu de... Personne n'a plongé à l'épave, enfin, voilà, c'est quand même...
Donc, il y a eu une sorte d'amnésie officielle qui a été imposée autour de ce fait divers tragique.
Je pense qu'on peut dire ça, oui, je ne sais pas, oui.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter Comme un cri. C'est un beau spectacle qu'on peut voir donc à Paris au spectacle des Chargeurs jusqu'au 21 mars, mis en scène par Amélie Armao avec sur scène Jean-Christian Leroy autour d'un texte qui a été écrit par Patrice Auvray. Et maintenant, bien sûr, il est temps de retrouver Lucie Bouteloup et sa puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan, bonjour aussi à tous vos invités de Comme un cri. Bon, je dois bien avouer qu'avec une pièce au titre si évocateur, c'est difficile de vous couper le sifflet aujourd'hui pour faire ma puce à l'oreille. Pourtant, je me lance, d'autant que c'est précisément sur cette expression, couper le sifflet à quelqu'un, que nous allons revenir aujourd'hui en compagnie de mon invité. Bonjour Jean Maillet.
Bonjour Lucie.
Alors, vous êtes linguiste et lexicographe, mais vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, notamment de « Langue française, arrêtez le massacre », paru aux éditions de L'Opportun, tout comme votre dernier titre « Donner de la confiture au cochon » ou les 365 expressions préférées de ma grand-mère. Tout un programme. Mais aujourd'hui, on commence donc par vous couper le sifflet. Alors, pour savoir de quel sifflet il s'agit et connaître le sens de cette expression, restez avec nous. Mais avant les explications du spécialiste, j'ai donné la parole aux élèves d'une classe de CE2 de l'école élémentaire Saint-Exupéry à Maison-Alfort, des petits qui ont la langue plutôt bien pendue.
Pour moi, couper sifflet, ça veut dire couper la parole à quelqu'un.
Ça fait aussi penser à le chant d'un oiseau.
Couper le sifflet, ça me fait penser à quand il y a un entraîneur, il prend un sifflet et ben on met la main devant le sifflet pour pas que le sifflet siffle.
Je pense que la couper déjà un sifflet, ça veut dire qu'il coupe quelque chose.
Moi, je dirais que couper le sifflet, c'est couper la parole à quelqu'un d'un coup sec.
Couper le sifflet, pour moi, ça veut dire couper une alarme d'incendie.
Ça veut dire couper la parole.
Pour moi, couper le sifflet, c'est quelqu'un dit qu'il est au téléphone et l'autre personne, elle en a marre, donc il lui raccroche au nez.
La bise à l'oreille.
Alors, couper une alarme, le chant de l'oiseau, le sifflet de l'arbitre, mais aussi couper la parole, il y a de l'idée, non Jean Maillet, qu'est-ce que vous en pensez?
Non seulement il y a de l'idée, mais il y a des idées parfaitement exactes, puisque c'est bien le sens de couper le sifflet, c'est bien couper la parole. Et bon, ça fait chaud au cœur d'entendre ça, parce que on se dit très souvent que les enfants, et les jeunes et les moins jeunes, ne connaissent plus les expressions. Eh bien, c'est faux, la preuve.
Mais pourquoi est-ce qu'on parle de sifflet, Jean Maillet? Qu'est-ce que c'est que ce sifflet?
Alors le sifflet, en fait, le sifflet, c'est une expression familière pour la gorge ou le gosier. Et dans le dictionnaire de l'Académie française, on trouve la trachée artère. Et le fait de couper le sifflet, c'est empêcher quelqu'un de parler, c'est l'interrompre dans son discours, c'est lui couper la parole, le laisser interloquer, le laisser sans voix, le laisser sans repartie. Au départ, c'est une expression familière, c'est une expression quasiment argotique. Et on a trouvé aussi un autre sens, un premier sens à cette expression, qui était tout simplement couper le cou, c'est-à-dire égorger.
Ah oui, donc faire taire pour de bon.
Ah oui, faire taire pour de bon. Et on trouve cela notamment chez Alfred Delvaux, dans son dictionnaire de la langue verte, qui est un formidable dictionnaire de l'argot du 19e siècle. Delvaux nous dit ceci, il nous dit « couper le sifflet à quelqu'un, c'est le forcer à se taire, soit en lui coupant le cou, ce qui est un moyen extrême, soit en lui prouvant éloquemment qu'il a tort de parler, ce qui vaut mieux. » Une expression équivalente, c'est « couper la chic ».
On peut dire aussi « rabattre le caquet », il me semble.
Rabattre le caquet, oui. Mais en général, le « rabattre le caquet », ça s'adresse plutôt, et on va me traiter bien sûr de macho, ça s'adresse plutôt aux femmes. Parce qu'on parlait du caquet des femmes, parce que les femmes ont la réputation d'être bavardes.
J'ai vu aussi que ça faisait référence au chant de certains animaux.
Oui, caqueter, mais justement, si on parle du caquet des femmes, c'est peut-être par assimilation du chant des gallinacées, notamment.
Ah ben, j'en connais plus d'une. Que ça va faire bondir, ça tombe bien, c'est la journée de la femme dimanche. Attention.
Ah oui, que voulez-vous, la lexicologie n'est pas toujours très féministe.
Alors Jean Maillet, est-ce que vous pouvez me dire de quand date à peu près cette expression « couper le sifflet » ?
Oui, elle est assez ancienne, peut-être remonte-t-elle au XVIe siècle. En tous les cas, le dictionnaire de l'Académie française de 1694 parle du sifflet comme de la trachée artère. Donc on suppose que l'expression était déjà bien connue. Au XVIIe, donc on peut la remonter peut-être à la datée du XVIe siècle. Et pourquoi pas plus tôt, puisque on sait que égorger, couper le cou pour empêcher les gens de parler, c'était aussi une façon de faire des brigands, des truands du Moyen-Âge, à l'époque de la fameuse cour des miracles. Donc après tout, c'est peut-être une expression qui remonte au Moyen-Âge.
Comme pas mal d'expressions de la langue française.
Absolument.
D'ailleurs. Et puis il y a eu un glissement au 19e siècle, il me semble.
Voilà, donc une métonymie, un glissement de sens, où le sens de couper le sifflet est beaucoup moins violent. Il ne s'agit plus de couper la gorge, d'égorger quelqu'un, mais bien de lui couper la parole, simplement.
Couper la parole. D'ailleurs, en anglais, on dit « to leave someone speechless », ça veut dire sans voix.
Sans
quoi.
Voix.
C'est un peu bouche bée. On est quoi ?
C'est ça, rester quoi? Être bouche bée, mais être bouche bée parce que on vous a interrompu dans votre discours. On dirait par exemple, cet enfant est bien mal élevé, il n'arrête pas de couper le sifflet aux grandes personnes. Ou encore, après une repartie, bien répondu, belle repartie, tu lui as coupé le sifflet à ce fanfaron. Voilà, donc c'est faire taire quelqu'un.
Merci Jean Maillet pour toutes vos explications et puis merci aussi à Marion Aberer qui a eu la gentillesse de me recevoir dans sa classe. J'espère donc, chères auditrices, que désormais vous ne vous laisserez plus couper ni le sifflet et encore moins le caquet par des hommes mal intentionnés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une autre puce à l'oreille. Au revoir Jean Maillet.
Au revoir.
Merci beaucoup Lucie Bouteloup et merci bien à votre invité Jean Maillet. Je rappelle que dans la première partie de l'émission, nous parlions du spectacle Dans un cri qui se joue donc au Théâtre des Chargeurs à Paris jusqu'au 21 mars. Et puis samedi prochain, une journée spéciale avec, je reviens vers vous Amélie, juste un mot.
Avec Charles Becker qui est historien et Mokhtar Mbaye qui a aussi plongé et qui est sénégalais. Voilà, il va y avoir une discussion autour du naufrage.
Merci bien d'avoir été avec nous dans La Danse des mots qui est une émission proposée par le réseau Canopée et par Radio France Internationale, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.